Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée au bouleversement suscité par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on explore une plateforme de jeux vidéo utilisée au quotidien par des dizaines de millions de personnes. Deux tiers des 9-12 ans américains l'utilisent. Il s'agit de Roblox, un nom peu connu. Pourtant, l'entreprise californienne existe depuis le début des années 2000. Elle est montée en puissance pendant les différents confinements et reste encore sous les radars médiatiques malgré son importance grandissante. Sur Roblox, via un avatar, on peut découvrir une multitude de jeux, on peut même en créer et commercer avec une monnaie virtuelle. Nous verrons en quoi toutes ces caractéristiques peuvent le rapprocher d'un métavers, un concept qui, lui, a longtemps occupé le haut de l'affiche dans les médias. Ce sera également l'occasion de se demander où en est le méta, le grand projet de Mark Zuckerberg à l'heure de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Et si Roblox représentait la forme la plus aboutie d'un métavers et préparait lentement les conditions de sa généralisation? Beaucoup de questions et trois invités ce soir. En jeu pour y répondre. En studio avec nous, David-Julien Ramil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé, chef de rubrique média pour l'ADN. Vous pourrez revenir sur l'histoire de la plateforme, son modèle économique et l'impact aussi des stratégies marketing sur les plus jeunes. À distance, Morgane Soulier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante et entrepreneuse, vous enseignez à HEC et vous préparez pour la rentrée chez Grasset l'ouvrage Métaverse, comprendre le monde qui vient. Vous pourrez analyser les initiatives des marques dans ces mondes virtuels et nous expliquer pourquoi vous croyez toujours au métavers de Facebook. Enfin, en studio avec nous, Esteban Giner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant chercheur à l'université de Lorraine au sein du CREM, soit le centre de recherche sur les médiations. Vous pourrez nous parler du rayonnement de Roblox que vous considérez comme un proto-métavers. Et également évoquer la captation du travail infantile par la plateforme. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama, qui lui plongera dans l'univers des Sims qui semble, eux, immortel. Notre émission s'écoute en direct et en podcast sur l'application Radio France et se regarde toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Les amis, aujourd'hui, vous allez pas me croire, mais on va apprendre à jouer à Roblox. Ah non, vraiment, je suis sérieux, c'est Roblox pour les nuls.
Bonjour, bonjour les amis, c'est Bonjumper. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à devenir une véritable star de Roblox? C'est pour ça que j'ai claqué mes plus belles lunettes de soleil. On est parti les amis, let's go! Direction Popstar Story. Allez, on y va.
Les amis, aujourd'hui, je vous présente Nikeland, qui est donc un événement sur Roblox avec Nike.
Attends, mais tu peux voler la voiture des autres, mais regardez ça, il a des voitures trop stylées, lui. Oh, la Ford Mustang et la Tesla. Allez, on va lui prendre la voiture. Let's go.
What's up, Roblox? Thank you so much for having us. We got a few songs for you today.
What's up, everybody? It's 24K Golden.
So let's do this.
He's in the metaverse. But on Saturday, Saturday,
Saturday. J'ai appris que vous pouvez avoir des Robux gratuitement sur Roblox.
Aujourd'hui les mecs, on va se faire un maximum de Robux pour devenir le roi de Roblox.
Mais je vais devenir le meilleur développeur de Roblox, le plus riche et le plus célèbre de Roblox.
Et voilà un tout petit peu de l'univers de Roblox. On a entendu justement le Robux, qui est la monnaie virtuelle sur le plateforme. On aura l'occasion d'en reparler. On a aussi eu quelques extraits de concerts événementiels qui ont eu lieu justement sur Roblox. On va commencer avec un premier niveau, un niveau déjà de vulgarisation qui est primordial lorsqu'on s'intéresse justement à ce sujet. Vous consacrez, David-Julien Ramil, un grand dossier dans l'ADN sur les spécificités de Roblox. Donc déjà pour nos auditeurs, auditrices qui entendent ce nom pour la première fois, et je sais qu'ils existent au fond ou même devant la salle, c'est quoi Roblox? Comment vous pourriez arriver à le définir, à définir ses particularités?
C'est le passe-temps favori de votre enfant, mais vous ne le savez pas. Non, comment est-ce qu'on pourrait le définir facilement? C'est une plateforme de création et de distribution de jeux, un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir avec Steam, qui est l'acteur le plus connu, à la différence près que sur cette plateforme-là, ça fonctionne à la fois comme une espèce de réseau social. On peut rentrer en communication avec d'autres joueurs, on se crée son propre avatar, qui est un peu l'équivalent de la photo de profil qu'on va pouvoir personnaliser. et qui va ensuite se retrouver dans tous les jeux auxquels on a accès. Et l'autre caractéristique de Roblox, qui est au cœur vraiment de la plateforme, c'est que les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes leurs jeux. Alors, la plateforme les appelle les expériences, mais ce sont effectivement des jeux. Ils ont à leur disposition un tas d'outils presque gratuit, et le presque est important, on reviendra dessus après, qui leur permet donc de faire de la modélisation 3D, donc de modéliser un décor, de modéliser des personnages, d'avoir des scripts, donc en fait de vraiment les éléments essentiels, les briques essentielles pour faire un jeu vidéo. Et donc, c'est pas rare de voir des jeunes gamers mineurs, souvent des même 14, 15, 16 ans, créer un peu leur première expérience de développeur sur cette plateforme, avec voilà, donc tous ces outils-là.
Alors justement, vous allez démarrer en disant c'est là où vos enfants sont et vous le savez pas forcément. Mmh. Quels sont justement les chiffres dont on dispose du nombre d'utilisateurs, parce que c'est assez massif, ouais. Et d'une cible particulière qui est une cible très jeune.
Pour la faire simple, on a à peu près quelque chose comme 214 millions de visiteurs actifs par mois.
Dans le monde ?
Voilà, dans le monde entier. Ils étaient quelque chose comme 115 millions en 2021. Et on a 230 millions d'inscrits. Donc voilà, c'est pas forcément des gens qui jouent, mais en tout, on a 230 millions d'inscrits. Ça fait à peu près l'équivalent de la population française qui vient jouer sur la plateforme chaque jour.
Et la moitié notamment des moins de 16 ans aux États-Unis qui sont déjà passés par Roblox. On voit qu'il y a eu un impact du confinement, j'imagine, aussi, dans l'augmentation.
Oui, tout à fait. Ça a vraiment explosé à ce moment-là. On a eu un pic, notamment à l'été 2021, où les chiffres sont un peu redescendus après, mais à ce moment-là, ça a été un peu l'acmé de la plateforme. C'était très très fort.
Donc un usage massif, voilà pourquoi le meilleur des mondes voulait justement s'en emparer pour tenter de mieux comprendre ces jeux vidéo dits de bac à sable. Esteban Jenner, ça veut dire quoi un jeu vidéo de bac à sable ?
Un jeu vidéo bac à sable, c'est vraiment une expérience qu'on va mettre à la disposition des audiences joueuses et on va leur dire, moi je vous mets à disposition les outils et maintenant montrez-moi ce que vous allez faire. Et comment vous allez vous les approprier. Alors moi, quand je me suis intéressé à Roblox, en fait, je me suis aussi intéressé à Minecraft, qui est aussi considéré comme un jeu bac à sable. Et c'est vraiment des expériences qui vont mettre l'emphase sur la créativité, la réappropriation, l'appréhension d'un monde et en faire un petit chez-soi. Comme ça peut être le cas dans Minecraft notamment.
Alors vous avez cité justement Minecraft qui est un titre légendaire, je pense qui parle à beaucoup plus de gens, ouais. Parce que dont l'usage concernait un public aussi plus âgé, mais on voit que le marché justement de Roblox est déjà plus lourd que celui de Minecraft, c'est déjà un marché très important, on parle de 112 millions de joueurs justement sur Minecraft, on est déjà forcément plus sur Roblox. Morgane Soulier, comment on peut expliquer justement qu'il y a un relatif silence médiatique autour de ces phénomènes-là comme Roblox, on vient de le comprendre, hein, c'est joué par la moitié quand même des adolescents de moins de 16 ans aux États-Unis, et pourtant on en parle très peu. Comment on explique ce silence ?
Je sais pas si on en parle très peu. En tout cas, effectivement, en France, on entend moins parler de Roblox que, par exemple, d'un jeu comme Fortnite. Il faut savoir, comme vous disiez tout à l'heure, que un jeu comme Roblox a quatre typologies, a quatre segments d'utilisateurs. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie segmentation entre les joueurs et les enfants adolescents. C'est-à-dire que vous le disiez, il y a plus de 50% des utilisateurs, des joueurs qui ont moins de 13 ans, je crois, 54% qui ont moins de 13 ans, qui sont constitués d'enfants et de jeunes, et le reste, c'est des joueurs et puis les créateurs. Et pour aller dans le sens de ce que disait Esteban sur l'idée du jeu bac à sable, il faut vraiment savoir qu'effectivement cette population de créateurs est une des populations très importantes dans Roblox. Et si on en parle moins, je suis pas convaincue qu'on en parle moins, mais je pense que la France.
On va dire que on le lit très peu dans Libération, on le lit pas dans une presse généraliste. C'est-à-dire qu'évidemment vous êtes dans le secteur, donc Roblox ça vous parle, mais on va dire par rapport à Fortnite qui va justement arriver sur des médias mainstream, on en parle peut-être un peu moins. Du coup, on a moins l'impression d'en parler. Mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a une déconnexion aussi entre les journalistes et l'usage, parce que on ne joue pas forcément à Roblox. Qu'en pensez-vous David Julien?
Oui, on joue pas. Moi-même qui suis vieux gamer et qui ai des enfants, qui ont des enfants, j'ai des enfants gamers et je pense que Roblox, ça a quelque chose d'un petit peu rebutant pour pour les vieux gamers comme moi, c'est-à-dire que c'est moche, on va le dire clairement. C'est une plateforme qui est, enfin, les graphismes sont assez basiques. Alors après, ça dépend des jeux. Il y en a qui arrivent à faire des miracles, mais la plupart du temps, c'est quand même un espèce de personnage un peu moche, à mi-chemin.
Un
entre
peu un comme Lego des Lego, à peu près.
Lego et Playmobil, c'est très très laid. Et en fait, mais les enfants s'en fichent. Eux, ça les dérange pas parce que en fait, là où ils vont chercher, ce qu'ils vont chercher, en fait, c'est d'abord de l'expérience gratuite. Gratuite entre guillemets, c'est du free to play Roblox, c'est-à-dire qu'en gros on ne paye pas pour accéder à tel ou tel jeu, on va dessus et l'argent on le dépense autrement. Et donc ce qui est intéressant aussi avec Roblox, c'est que il y a énormément de jeux populaires qui sont des copies de jeux connus dans le par le mainstream, c'est-à-dire que on va avoir
le Call of Duty par exemple.
Voilà, c'est ça, on aura le Call of Duty, le GTA de Roblox, on aura le Sims de Roblox, on aura vraiment un peu le panel complet des jeux qui existent existe aussi sur Roblox, juste en plus laid quoi. Et du coup ce côté déjà copie, je pense qu'il donne un moins de prestige et donc donne moins l'impression d'avoir envie d'en parler. Et puis surtout c'est des enfants quoi, enfin je veux dire.
C'est ça. Et puis ce qui compte c'est pas tant l'endroit où on est mais c'est l'expérience, c'est avec qui on parle et comment on joue. Esteban Giner, c'est ce qu'on voit aussi Roblox, c'est vieux hein, déjà de 2005, on est vraiment au début du web 2. Donc finalement ce qu'on va chercher c'est l'interaction, exactement comme un réseau social, on est contemporain par rapport à la création de Facebook.
Alors, en fait, les objectifs de Roblox ont beaucoup évolué dans le temps. En fait, c'est une plateforme qui a mis très longtemps à comprendre que c'était une plateforme qui proposait des expériences vidéoludiques. Et donc, au début, quand on parlait de Roblox, les auteurs, les propriétaires de l'entreprise, en fait, présentaient également cette plateforme, déjà comme une plateforme, mais aussi une plateforme d'apprentissage au développement informatique, etc. Donc, en fait, il y a ce long cheminement qu'a fait l'entreprise pour se connaître soi-même. Je reviens sur la déconnexion que vous évoquiez tantôt. En fait, elle n'est pas qu'au niveau des journalistes et des audiences. Elle est également au niveau des personnes qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, qui aujourd'hui vont être une population de millennials et de plus anciens, qui ne jouent pas également non plus à Roblox. On va être également dans des circuits économiques qui n'ont pas besoin de publicité commerciale dans les rues, donc on va également moins les voir. Donc en fait, c'est vraiment ce truc qui passe sous le radar, en fait. Et pourtant, ça cache des expériences sociales. Alors oui, on va chercher la gratuité, parce que quand on a notre première tablette, on n'a pas forcément le portefeuille de papa ou de maman ou d'un
gars. Oui, parce que là, on est effectivement sur une audience qui a un pouvoir d'achat très limité, 9-12 ans, enfin qui existe, qui est sans doute important de par le volume, mais en tout cas, en termes de pouvoir d'achat, c'est faible. C'est l'argent de poche, justement, des adolescents, des pré-adolescents même, hein, puisque c'est plutôt une cible 9-12 ans. Donc il va falloir arriver à monétiser un pouvoir d'achat qui est faible. Et Esteban Giner, vous définissez justement Roblox comme un proto-métavers.
Oui.
Dans quel sens ?
En fait, dans le sens où la notion de métavers ou de métaverse, enfin, peu importe comment on l'emploie, peut facilement être galvaudée. On ne sait pas exactement de quoi on parle. On va imaginer une espèce d'univers qui peut être virtuel et appréhendable avec un casque VR, etc. Mais en vrai, derrière, c'est surtout un terme parapluie dans lequel il se retrouve des stratégies commerciales et industrielles qui sont totalement différentes entre un industriel comme Microsoft ou un industriel comme Epic. En fait, il y a vraiment deux stratégies complètement différentes. Donc je parle de proto-métaverse parce que ça me permet un peu de m'extraire du débat est-ce que Roblox est un métaverse ou pas, pour me focaliser sur vraiment la question qui moi me motive le plus, qui va être vraiment sur le bouillonnement culturel, le foisonnement, le débordement, comment en fait les relations sociales se émergent et se structurent au sein de la plateforme, mais également comment elles rayonnent sur les autres plateformes de l'internet.
Voilà, il y a effectivement une réappropriation, une réinterprétation justement de cette culture de Roblox qui peut rayonner ailleurs. Morgane Soulier, vous qui travaillez beaucoup justement sur le métavers, alors on aura l'occasion d'y revenir, on voit quand même que l'actualité métavers est moins forte aujourd'hui, elle est dominée là actuellement par l'intelligence artificielle et ChatGPT. On connaît aussi les cycles technologiques dans les médias avec des mots qui deviennent tendance, dont on parle beaucoup pendant quelques mois, puis on les oublie, puis les autres reviennent. Il y a une mécanique assez cyclique, mais au-delà de ce phénomène récurrent, il y a quand même des investissements qui sont moins important, déclaré comme étant moins important du côté du groupe Meta par Mark Zuckerberg. On sent que le métavers n'a peut-être pas pris à la hauteur de ce qu'il devait prendre déjà en 2023. Est-ce que c'est pas, si on regarde justement en miroir pour comment Roblox, lui, a gagné en usage, le problème du métavers de Facebook, c'est pas tout simplement qu'il manquait un usage fonctionnel, qu'il n'y avait pas d'usage préexistant. Quelle est votre vision?
Ouais, alors il faut savoir, en fait, il faut garder en tête que le mot métaverse, on en a tous entendu parler fin 2021 quand Mark Zuckerberg a décidé de faire son rebranding de Facebook en Meta. Alors que le métaverse est absolument pas quelque chose de nouveau. Le métaverse existe depuis plus de 30 ans. Il suffit de faire des recherches académiques pour voir que finalement les vrais technophiles avaient déjà entendu parler de métaverse depuis très longtemps. Si Mark Zuckerberg a décidé fin 2021 de prendre la parole sur le métaverse, c'est parce que on sait qu'il était dans des problématiques assez fortes avec les sujets du scandale Cambridge Analytica, la lanceuse d'alerte qui détaillait les failles du système de modération de la plateforme, et du coup il a fallu prendre la parole médiatiquement, et c'était peut-être un petit peu trop tôt.
Vous parlez de Frances Haugen, non, c'est ça, la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Vous nous dites que finalement il a anticipé peut-être la communication sur le métaverse pour essayer d'avoir une stratégie en fait de diversion par rapport à l'attention médiatique.
Je pense que c'était un petit peu tôt. Il a voulu prendre en fait le métaverse, c'était quelque chose qui était assez embryonnaire, assez naissant, et il a voulu prendre la parole sur ce sujet pour noyer un petit peu le poisson et pour changer l'attention qui était vraiment sur toutes les failles de son système, et aussi parce que à mon avis c'est quand même quelqu'un de visionnaire, et contrairement à ce que disent les médias aujourd'hui, le métaverse est absolument pas mort, et au contraire en fait il est même peut-être même pas encore né. C'est une technologie qui est en train de se construire, où la maturité technologique est peut-être pas encore là, les usages ne sont peut-être pas encore là parce que la maturité technologique n'est peut-être pas encore là, mais même si leur adoption semble encore embryonnaire, il y a des signaux faibles qui montrent l'intérêt accru finalement des consommateurs, notamment pour les équipements qui vont permettre à terme au monde virtuel de se démocratiser. Par exemple, ça fait 2 années de suite, au lendemain de Noël en 2021, en 2022, que l'application Oculus, qui est la filiale du groupe Meta et qui développe les casques de réalité virtuelle, est l'application la plus téléchargée aux États-Unis, avec plus de 2 millions de fois, plus de 2 millions de téléchargements. On sait que Facebook est en train de travailler notamment aux prochains outils, casques, lunettes de réalité virtuelle qu'ils vont mettre sur le marché, avec déjà une timeline 2024, 2026, 2028. Et on sait aussi, en parlant de casques, d'outils, que Apple, entreprise bien connue pour imposer l'adoption d'équipements innovants, on se souvient de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad, de l'iWatch, devrait lancer ses Apple Glass, son premier casque de réalité mixte, avant la fin de l'année 2023. Donc en fait, il y a eu une prise de parole peut-être un petit peu prématurée, et pourtant, les plus grands de la tech continue à travailler sur des technologies qui constituent le métaverse.
David Julien Ramil, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse en tant que journaliste spécialisé?
Ça m'évoque un petit peu le fameux adage fake it until you make it, c'est-à-dire que il y a toujours eu un peu cette volonté, notamment chez Meta, de pousser la réalité virtuelle. On se souvient de l'image de Zuckerberg traversant des rangées avec tous les gens qui étaient équipés de leur casque. Je pense que le casque de réalité virtuelle, pour le moment en tout cas, n'a pas décoller au niveau du grand public, ça reste un truc de niche. Ça veut pas forcément dire qu'il a tort. Je pense qu'il s'est inspiré de plusieurs choses. À mon sens, Meta a beaucoup lorgné sur Roblox. Je pense qu'ils savaient déjà, ils avaient déjà le truc en tête, parce que c'est un modèle qui est assez, qui a un certain succès, notamment commercial. Et je pense qu'ils ont voulu aussi lorgner du côté d'une autre application qui est assez peu connue, qui s'appelle VRChat, qui fonctionne plutôt bien sur PC, sur Steam. Donc VRChat, c'est vraiment la vision du métaverse telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire que tous les utilisateurs sont dans un monde virtuel avec un casque de réalité virtuelle. Certains ont même des combinaisons entières, sauf que c'est un univers qui est assez pirate, hein. C'est un lieu quand même qui est plutôt fréquenté par des adultes, qui n'est pas très modéré, qui n'est pas très surveillé. Autrement dit, il y a beaucoup de sexe virtuel, il faut le dire. On se souvient que quand Meta a lancé ses premières expérimentations avec Horizon World, les personnages n'avaient pas de jambes, c'était juste des troncs qui flottaient. Et il a beaucoup communiqué sur le travail, en fait, sur le monde du travail. On allait tous faire nos réunions dans le monde virtuel, on allait tous avoir
des meetings. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on peut mettre en regard justement le métavers de Facebook avec Roblox, c'est qu'on a un proto-métaverse, si on reprend justement le terme d'Esteban Giner, qui fonctionne, qui a un usage, qui a des utilisateurs, dont on parle assez peu. Et on a eu justement un métavers dont on a parlé grandement, et là pour le coup dans toute la presse et dans le monde entier, dont on n'a même pas des jambes quand on parle d'Avatar. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est justement pas encore mature. Vous pensez que c'était aussi pour essayer de faire un contre-feu médiatique à ce moment-là, ou c'est tout simplement que la techno est pas prête et qu'il n'y a pas encore l'usage, il n'y a pas encore de base solide?
Je pense qu'il y avait ce côté contre-feu, ça c'est assuré, enfin c'est vraiment sûr. Je pense aussi qu'il a vraiment voulu marquer le coup, se positionner pour éventuellement le futur, mais là on voit qu'il a complètement vidé les ressources pour se mettre complètement sur l'IA.
Financière, effectivement.
Ouais, et je pense qu'il a perdu beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Ils ont fait quand même, j'ai ramené quelques chiffres, ils ont, en termes d'usage, d'utilisateurs, je crois qu'on est quelque chose sur 200 000 utilisateurs sur un mois actif. Donc en fait, c'est vraiment minable comparé aux plusieurs millions que peuvent avoir Roblox. En fait, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il a essayé de créer un truc from scratch, à partir de rien. Comme on disait tout à l'heure, Roblox, ça a eu plus de 10 ans pour se développer. Et surtout, la première chose qui est mise en avant dans un métaverse, c'est le jeu. C'est attirer des enfants, des jeunes, des ados, leur permettre de créer, de s'amuser, de créer.
Et... c'est ça, parce qu'en fait, l'intérêt aussi de cet espace-là, et je vais donner la parole à Morgane Soulier, c'est qu'il faut savoir pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on a à y faire. Et on avait l'impression que le métaverse, c'était essayer de dupliquer quelque chose d'existant en version dégradée, faire des réunions, mais finalement entre une visio et un avatar qui fonctionne pas ou pas très bien, autant être dans visio. Là, dans Roblox, on a une plus-value puisqu'on y va pour jouer, donc c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans la vie physique et que seule une plateforme peut nous offrir. Morgane Soulier.
Oui, ce qui est intéressant en fait, c'est que depuis le début de nos échanges, on fait cet amalgame qui a été créé par Mark Zuckerberg, et c'est là où il a eu une réussite, c'est que systématiquement, en parlant de métaverse, on pense à Meta, et du coup, on fait cette espèce de lien entre métaverse, Meta, et vous parlez de la plateforme métaverse en disant, une plateforme métaverse, celle de Facebook, alors que finalement, le métaverse n'appartient pas à Facebook, c'est pas Facebook, c'est pas Meta, c'est pas Mark Zuckerberg qui a imaginé ou qui a créé le métaverse, et c'est là où je pense qu'il a été, malin, entre guillemets, c'est que tout de suite, on fait l'association métaverse, Meta, alors que finalement, il y a un très, très grand nombre d'autres plateformes qui ne sont pas Facebook, et vous parliez de VRChat, il y en a tout un tas d'autres. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand vous parlez de proto-métaverse, je pense que c'est important de comprendre les nombreux points communs qui existent entre les jeux dits les MMOG, donc les Massively Multiplayer Online Game, enfin jeux en ligne massivement multijoueurs, et le métaverse. C'est un, l'expérience que l'utilisateur et le joueur vit au travers d'avatar. Donc ça, c'est des points, enfin c'est un point vraiment commun avec le métaverse. Dans un jeu vidéo en ligne, on assume le rôle d'un guerrier, d'un commerçant, d'un magicien, d'un chevalier, et le métaverse va permettre aussi de telles expériences de dédoublement de soi-même finalement. Il y a aussi la persistante. En fait, on peut quitter le monde n'importe quand, et lorsqu'on y revient, les autres participants ou les autres joueurs, ils l'ont fait évoluer en parallèle. Et c'est ça aussi qui est à la fois addictif et qui rapproche un jeu comme Roblox d'un métaverse.
Et effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas un métavers et des métavers, et que le coup marketing effectivement de Facebook, c'était d'avoir changé de nom en s'appelant Meta pour arriver à préempter ce qu'était le métavers. Mais on n'en est pas dupe, et c'est pour ça qu'on considère Roblox comme étant justement un proto-métavers, et on sait très bien que Roblox n'a rien à voir avec le groupe Meta. Je vais donner la parole à Esteban Giner qui veut réagir, justement pour qu'on se mette à peu près d'accord sur les caractéristiques d'un métavers. Il est courant et usuel de rappeler qu'il faut qu'il y ait du réalisme, l'ubiquité, l'interopérabilité et l'évolutivité. C'est ce que vous soulignez, Morgane Soulier, que ça, le jeu évolue aussi en temps réel, qu'on soit en ligne ou en jeu. L'ubiquité, c'est l'avatarisation, c'est le fait qu'effectivement on existe à travers un avatar, son réalisme, et l'interopérabilité, c'est autre chose, c'est de pouvoir effectivement, c'est la promesse du Web3, et transférer, et ça reste encore à l'état de promesse, transférer des données d'une interface à l'autre. Esteban Giner.
Oui, en fait... c'est la discussion est passionnante parce que et elle part aussi d'un mot clé que vous avez énoncé, qui est celui de l'usage. Et s'il y a une véritable distinction qu'on peut opérer entre Roblox, Minecraft, mais également d'autres comme Eve Online ou enfin d'autres jeux massivement multijoueurs, etc., c'est que en fait les usages se sont co-construits avec les audiences dès le début. Roblox sort en 2006, mais dès 2003-2004, il y a des expérimentations qui se font en bêta plus ou moins ouverte, fermée, etc. Minecraft, c'est un jeu qui est sorti à, qui est sorti en alpha puis en bêta avant qu'il y ait une sortie officielle du jeu. Donc en fait, ce qui se passe et qu'il y a une distinction qui est intéressante, c'est que on a là deux exemples qui vraiment ne savaient pas ce qu'elles allaient devenir. Et en face, on a d'autres expérimentations qui sont menées, bon, par Meta, mais par aussi d'autres acteurs qui se positionnent sur le marché métaverse, mais sur le marché IA, crypto, etc., qui vont en fait inflécher directement des usages. Et du coup, bah, si on n'a pas envie de faire ces usages-là dans tel endroit, bah, on n'y va pas. Il y a une question que j'aime bien, avec laquelle j'aime bien taquiner quand je fais réagir des professionnels de l'industrie, c'est je leur demande, mais à quel moment ce sera plus intéressant et plus passionnant de remplir sa déclaration d'impôt dans le métaverse? Et j'adore cette question parce que là, en fait, c'est là où on prend la mesure de l'écart entre ce que les plateformes qui co-construisent leurs expériences avec leurs audiences proposent, et elles proposent clairement pas de déclarer vos impôts en ligne. Et en parallèle, en fait, on a des expériences qui vont avoir des objectifs bien plus précis en termes économiques ou commerciaux.
Oui, et puis vous rappelez justement cette question aussi de l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a tout simplement une offre qui est proposée mais qui ne rencontre pas encore de demande parce qu'elle part justement, comme vous le disiez, from scratch, d'attente, de supposer que les gens vont venir sur cette plateforme-là. Et puis on a tout simplement déjà un usage existant, une demande existante, et l'offre va s'adapter, va se modeler pour pouvoir essayer de satisfaire cette demande-là, même si parfois elle l'exploite. Puisqu'on va rentrer maintenant dans le modèle économique aussi de Roblox. On le disait, on peut jouer, on peut aussi être créateur. Lorsqu'on est créateur, donc on va donc construire des univers, construire des mondes et espérer gagner de l'argent avec ça.
Oui, ouais, ça c'était l'une des grandes promesses. Alors je parle au passé parce que il l'affichait vraiment sur la page créateur, gagner de l'argent grâce à vos créations. Et ils ne l'ont plus mis. Maintenant ils l'ont enlevé parce que je pense que c'était un peu tendancieux. Donc faut bien comprendre effectivement que sur Roblox on a tout un système économique qui est ultra ultra complexe, qui est basé sur une monnaie de singe, une monnaie virtuelle qu'on appelle les Robux. Ces Robux, on peut en acheter avec des cartes prépayées, par exemple. C'est comme ça que souvent les enfants en ont, c'est-à-dire que c'est le petit cadeau quand la souris est passée ou l'anniversaire, on achète une carte à 10 balles et avec 5€, on a 400 Robux. Bon, apparemment, ça part quand même assez vite.
Le cours est fixe, on est d'accord.
Pour l'instant, le cours est fixe et cette monnaie-là, elle va être dépensée dans les jeux, donc non pas pour accéder aux jeux, ça c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, c'est des jeux qui sont totalement accessibles gratuitement.
Le free-to-play en français.
Ça. On a un système free-to-play, donc ça veut dire qu'en gros, les développeurs vont mettre en place, donc des ados en fait, on parle de vieux joueurs, vont mettre en place des jeux qui vont être vraiment des machines à sous. C'est-à-dire que l'idée principale, ça va être de rendre le gameplay un petit peu frustrant pour donner envie aux enfants qui sont dans le jeu d'acheter des bonus pour pouvoir accélérer et aller plus vite à leur objectif. Ils vont aussi mettre énormément d'incitations à acheter des espèces de pochettes surprises qui sont au sein du jeu et qui vont leur donner éventuellement des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Ils vont aussi offrir des personnalisations d'avatars. On va pouvoir acheter des chapeaux, des t-shirts, enfin énormément de choses. C'est un peu comme le jeu de la cour de récré, c'est-à-dire que celui qui est dans la cour de récré et qui a les plus belles Nike, c'est un peu le roi de la récré. Bah sur Roblox, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on a un bête d'avatar avec beaucoup de merchandising et on a dépensé beaucoup de Robux pour l'avoir, parce qu'on sait que c'est des éléments qui sont rares, bah forcément on va être plus cool. Donc voilà, il y a tout un système qui est mis en place et les développeurs de jeux ou les modélisateurs 3D qui fabriquent tous ces petits objets, ils sont rémunérés en Robux. Et à partir d'un certain seuil, qui est quand même relativement élevé, ils peuvent échanger ces Robux contre des euros ou contre des dollars. Et il faut savoir que là, le taux de conversion, il est vraiment minable. C'est-à-dire qu'un Robux équivaut à 0,0035 dollars. Donc, autant dire qu'il faut vraiment en accumuler énormément pour pouvoir les changer.
Sans parler effectivement de la commission que Roblox va prendre sur tous les échanges, les transactions, qui est de l'ordre de 30%, un petit peu près comme l'App Store, 30% et 70%. Et justement, lorsqu'on est créateur, on pourrait chercher à obtenir un peu plus d'argent, mais c'est rarement le cas. On écoute l'extrait justement d'une vidéo d'un documentaire qui s'appelait Roblox Exploiting Young Game Developers.
Si Roblox ne perdait pas d'argent année après année, ses investisseurs pourraient se retourner et dire pourquoi pas. Et donc, quand les développeurs Roblox viennent demander une augmentation, il n'y a jamais de réponse positive. Même si la plateforme compte 200 millions d'utilisateurs mensuels et que son PDG est un milliardaire. Parce que si Roblox devait donner plus d'argent aux développeurs de jeux, cela ferait moins d'argent pour développer la plateforme et devenir un monopole. Nous avons contacté Roblox pour une interview sur la façon dont elle traite ses jeunes développeurs. Ils ne nous ont pas répondu.
Et voilà cette vidéo donc YouTube How Roblox is exploiting young game developers pour un peu mieux comprendre effectivement le fonctionnement de Roblox et ce modèle économique qui est multiple, dont on sait très bien, comme souvent d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et que ceux qui arrivent à s'en sortir sont assez rares, même s'il y a toujours cette promesse, alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, une promesse qui n'est plus affichée en grande ligne, parce qu'on sait très bien que cette cible, cette jeune cible, est une cible vulnérable, qui demande encadrement. On se demandera d'ailleurs si cet encadrement est suffisant par rapport à cette cible. On va continuer à parler du modèle économique de Roblox, maintenant qu'on en a défini le périmètre. On va dire que c'est le niveau 2, après celui de la vulgarisation, celui où on va rentrer, essayer de percer les phases et les failles de son modèle économique. Mais tout de suite, on va partir voir Luigi Pekka qui, lui, va nous amener du côté de son métaverse.
Avec quelques abeilles éclopées, on a pour projet de quitter la ruche. Même sur montagne de billets, je perds pas mes vieux réflexes comme un tuche. J'ai tordu mon ossature. Avachi devant l'ordi, je tourne en rond comme l'anneau de Saturne. Mon cœur est en orbite, est-ce qu'on sera toujours triste? Dans le métaverse, je regarde le monde dans lequel on vit. Comme un homme des cavernes, je t'ai dit qu'on irait voir la mer. Dès que sera passé la verre, je prie pour qu'il pleuve encore longtemps. J'ai trop de taf pour tenir mes promesses. C'est la vie, la vraie, pas celle des films. Sombre l'avenir qui se dessine. Mais je m'en bats les on s'en bat les moi je m'en bats les on s'en bat les pour la moisson sacrifions un influenceur. Comme dans Heure, je suis in love d'un ordinateur. J'ai tout mis dans la même boisson pour sentir battre mon cœur. Je suis qu'un intermittent sous pression, un Pokémon sans dresseur. Formé à Rennes comme Dembélé, ta mère m'a vu à la télé. J'arrêterai à 35 balais pour aller sauver des baleines. De presque tout, on s'emballait. Plus ouais, je donne que Welbeck. Monte sur ma bécane, on se barre ici tout par c'est en c'est la vie la vraie. Pas celle des films, sombre est l'avenir qui se dessine. C'est la vie la vraie, pas celle des films, sombre est l'avenir qui se dessine. Mais je m'en bats les on s'en bat les
C'est un rappeur qui vient de Rennes, il s'appelle Luigi Pekka, il chante son métaverse et il est passé ce soir dans le meilleur des mondes, juste avant le journal.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Maintes fois annoncées, tant reportées, maintenant avérées, les pastilles bleues de certification sur Twitter ont disparu, du moins les pastilles bleues gratuites qui garantissaient une authentification de l'auteur et, avouons-le, offraient également une sorte de reconnaissance pour les journalistes dont on a pu faire partie ici autour de cette table. Elon Musk, qui n'est jamais un paradoxe près, a donc dans une entreprise officielle de lutte contre la désinformation renforcé le phénomène, puisqu'aujourd'hui il suffit de payer pour bénéficier de cette insigne et n'importe qui peut se faire passer pour un autre et tweeter sous une apparence de crédibilité, un service payant qui propose également une mise en avant du contenu et bien d'autres avantages. Beaucoup de médias ont déjà annoncé se retirer de la plateforme pour éviter cette prise d'otage. Maintenant, les profils qui sont en bleu sont ceux qui sont prêts à payer. Enfin, pas tout à fait, car dans un récent tweet, Stephen King, le maître de l'horreur et fervent opposant à Musk, ne comprenait pas pourquoi il était toujours en bleu, lui qui n'a jamais voulu donner ne serait-ce qu'un moindre dollar à Elon Musk. Mais figurez-vous qu'Elon Musk lui a offert, oui, il lui a offert dans un élan de perversité. Il est donc bleu à son insu, ce qui prouve une fois encore que le milliardaire fait ce qu'il veut de nous, ses utilisateurs, qui restons accrochés à sa toile, ou plutôt à son nid.
If the public is happy with it, that's what matters.
Elle, par contre, refuse la main à 200 000 euros qui cherchait grassement à la nourrir. Elle, c'est l'humoriste Blanche Gardin, et lui, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Dans un long post publié sur Facebook, Blanche Gardin révèle avoir reçu une proposition pour participer à une émission phare de la plateforme baptisée LOL qui ressort, le principe des stars enfermées dans une sorte de loft et le premier qui rit est éliminé. Blanche Gardin ne fait pas qu'afficher le montant astronomique proposé pour une seule journée de tournage. Elle en profite pour rédiger une lettre au vitriol contre le modèle de la plateforme, à la fois la précarité des ouvriers qui bossent pour un algorithme, la destruction du lien social, l'optimisation fiscale et les lubies spatiales. Elle termine également par le risque de plateformisation du 7e art qui pourrait fermer à jamais les salles obscures. Je la cite, « Je n'ai pas envie que dans 10 ans plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canap en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. » Voilà, voilà, une claque anti-GAFAM venue d'une humoriste française adressée à un géant dont on n'attend même plus la réponse.
Moi, ça me fait rire, ça.
Et après une intelligence artificielle qui présente le journal au Koweït, voilà que la Suisse, pourtant si neutre dans son envie de faire le buzz, cède à la tentation de l'automatisation en proposant son bulletin vidéo, son bulletin météo à Jade. Jade, une machine conversationnelle sous forme d'avatar qui s'exprime grâce à ChatGPT sur la chaîne M Le Média. Bon, on a l'habitude de ce genre de coups médiatiques, mais ce qui perturbe ici, c'est la raison invoquée par la direction de la chaîne suisse. Je cite toujours, le poste a été mis au concours pour dénicher une personne en chair et en os, mais aucun des candidats n'a été retenu. Autant dire par là qu'on n'a pas trouvé d'humain suffisamment pertinent pour faire le job, donc on a confié la mission à un robot, mais qu'on se rassure, on nous annonce qu'une journaliste de la rédaction est prévue pour remplacer Jade au pied levé en cas de bug technique. Pas de doute, le temps est orageux sur l'ensemble de la planète tech, mais restez bien au frais avec nous, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Excellente journée avec nous.
Voilà, c'était Jade en parole qui présente donc la météo en Suisse. Nous sommes toujours dans les studios de la Maison de la Radio pour Le Meilleur des Mondes, une émission consacrée à Roblox en miroir d'un proto-métavers ou du moins de ce métavers dont on parlait beaucoup du côté de Facebook. On explore Roblox, ses subtilités, son modèle économique. Nous sommes en compagnie de David Julien Ramil qui est journaliste spécialisé au sein du média L'ADN ainsi que Esteban Giner qui est doctorant chercheur à l'université de Lorraine et de Morgane Soulier qui est consultante et entrepreneuse à distance avec nous. On était justement sur le modèle économique de Roblox. Esteban Giner, est-ce qu'on peut parler de captation de la créativité lorsqu'on parle de Roblox, puisque on l'a dit tout à l'heure, on peut à la fois être joueur, on peut aussi être à la fois producteur, mais on produit des jeux sous certaines conditions.
Oui, en fait, c'est très intéressant parce que ça résonne avec un petit peu avec l'actualité que vous venez d'énoncer. Effectivement. Donc, on sait que Roblox, voilà, propose des outils de création à ses usagers et ses usagères. Bon, dans la majorité des cas, on va considérer que c'est globalement de la créativité qui est valorisée socialement. Pourquoi ? Parce que on met à disposition des outils et donc les enfants peuvent apprendre à manipuler des outils informatiques, à créer des choses, etc. Donc on va pas forcément voir l'identité de travail que ce phénomène est, en fait. Mm. Et on a des collègues, et ça résonne, en fait, avec l'actu. Je pense notamment aux travaux de Bruno Vettel, d'Antonio Casilli, en fait, qui travaillent sur la plateformisation des contenus. Et contrairement à ce qu'a été Minecraft dans ses prémices, où là, la créativité est entièrement, on va dire, autotélique, téléonomique, en fait, elle est tournée vers soi-même. En fait, Roblox, marchandise et, en fait, commodifie, en fait, instaure des mécaniques marchandes derrière cette créativité. Le documentaire que vous citiez tantôt, en fait, parle aussi d'enfants, donc entre 13 et 18 ans, qui peuvent souffrir de burn-out à cause de ça. Et aussi, Mais pour les meilleurs qui réussissent par coup de chance, par algorithme, etc., en fait, on se retrouve aussi avec des jeunes développeurs et des jeunes développeuses qui finissent par monter leur propre studio pour devenir développeurs propres à Roblox. Mmh. Et donc, en fait...
On reste à l'intérieur du système.
On reste dans l'écosystème.
Et d'ailleurs, on apprend, il me semble, à programmer au sein d'un outil qui est leur outil. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, finalement, toutes les heures que mon enfant peut être investi dans Roblox pour programmer, pour développer des jeux vidéo, il peut s'en servir plus tard dans un autre métier. Finalement, il peut s'en servir qu'à l'intérieur même du système.
Si l'apprentissage n'est pas guidé par un accompagnateur ou une accompagnatrice, en fait, pareil, Roblox utilise un langage de programmation qui est une variation du Lua. Donc, en fait, on se retrouve avec des gens qui s'auto-forment et qui vont peut-être pas être orientés, accompagnés par un système qui va présenter l'apprentissage comme également une façon de s'émanciper.
Effectivement, l'émancipation est assez... L'horizon de l'émancipation est assez réduit. Morgane Soulier.
Oui, alors deux choses. La première, juste sur ce que vous venez de finir de dire, il faut savoir que Roblox est en train de développer sa propre intelligence artificielle, un peu du type ChatGPT, qui va permettre du coup à plus de personnes, pas forcément des développeurs asservis, de développer des jeux vidéo via du texte en tapant seulement « j'ai envie que mon jeu vidéo ressemble à ça et à ça ». Et en fait, du coup, ils sont en train de développer leur intelligence artificielle qui va ouvrir du coup à un plus grand nombre la possibilité de créer son jeu vidéo. Ce que je voulais rappeler aussi, c'est que Roblox a un autre modèle économique vraiment très important. On n'a pas dit que Roblox, c'est un chiffre d'affaires quand même de près de 2 milliards de dollars, ce qui est absolument gigantesque. Et Roblox gagne également de l'argent en s'associant avec des marques, avec des annonceurs. Avec des marques et des annonceurs et qui permettent d'afficher des publicités ciblées finalement à ses utilisateurs. Elles peuvent prendre différentes formes, des bannières publicitaires, des publicités vidéo, du contenu sponsorisé, c'est un peu comme du placement produit finalement. Et ils ont développé plusieurs partenariats avec des marques telles que Marvel, Lego, Disney, Nike, Vans, Gucci, des marques qui évidemment sont les marques préférées des jeunes utilisateurs de Roblox. Et ils continuent d'attirer des nouveaux partenaires au fur et à mesure de leur croissance avec l'élargissement de la base utilisateur. Et pour terminer, ces partenariats permettent aux marques de promouvoir leurs produits et services auprès du grand public, donc une fois plus essentiellement jeunes, ce qui constitue une occasion précieuse de faire de la publicité native auprès de ces jeunes générations. Mais aussi, ils fournissent aux annonceurs des données en temps réel sur la manière dont les gens s'engagent dans leurs produits et dans les mondes virtuels, ce qui est un terrain d'expérimentation énorme, finalement, dans la probable arrivée du métaverse.
Effectivement, et là on a des cas d'école et vous avez eu raison de rappeler toutes ces entreprises de marketing. Vous en avez cité beaucoup de ces marques qui sont présentes et qui vont continuer à l'être parce que de toute façon il y a une demande, il y a un public. Et puis on rappelle que puisque l'application est gratuite, on lit forcément de ses données, de son usage, de son comportement. Donc on voit que finalement que ce modèle économique il est assez multiple et qu'il est de nouveau dans un circuit fermé. Par rapport justement à cette population, on le disait, 9-13 ans. De pré-adolescents. Est-ce qu'il y a un manque aussi de régulation, peut-être même de modération par rapport aux différents dangers que peut guetter cette population-là ? On a parlé donc de ciblage, mais on peut parler aussi d'interactions qui peuvent se faire avec des adultes ou des gens qu'on ne maîtrise pas forcément. On sait que c'est une inquiétude grandissante chez les adolescents eux-mêmes, d'ailleurs, de savoir à qui ils parlent, sans parler de l'inquiétude parentale.
Alors là, je vais être malheureusement un peu cash, mais partout où il y a des enfants sur un réseau social, il y a des prédateurs. Et ça, c'est malheureusement un peu inévitable, quelle que soit la force de la modération. Elle se fait bien souvent a posteriori. Roblox n'échappe pas à l'affaire. Je sais qu'avant qu'on s'y intéresse et quand c'était encore vachement sous le radar, la plateforme a déjà eu des... j'avais déjà vu plusieurs articles évoquant des espèces de sex room qui auraient été mises en place avec des enfants qui étaient donc attirés en disant viens on va jouer à un jeu, c'est rigolo, et puis qui se retrouvaient à simuler des actes sexuels dans ces plateformes là quoi. Donc
mais comme vous le dites, effectivement, on le sait, c'est sur chaque réseau social qu'il y a ce risque de prédation. Mais qu'en est-il de la modération, parce que par rapport à d'autres plateformes, c'est pas forcément un public cible de 9-13 ans. D'ailleurs, officiellement déjà, les plateformes sont interdites. au mois de 13 ans sur différents, sur, officiellement, j'entends, hein, sur Roblox, quand on s'intéresse directement à cette solution-là, est-ce qu'il y a justement une modération qui est à la hauteur du public concerné ?
Il y a une modération, effectivement, qui. J'ai pas les chiffres en tête sur le nombre de modérateurs, malheureusement. Mais,
il est forcément insuffisant.
Voilà, mais de toute façon, voilà, le fait est que. C'est un réseau sur lequel on est encouragé de toute façon à interagir et à échanger aussi des objets d'une certaine valeur. Donc en fait, j'ai pas d'exemple précis sur Roblox, mais par exemple, j'avais déjà interviewé une personne qui bossait à la modération des réseaux sociaux de PlayStation Network et qui me disait que dans n'importe quel jeu où on pouvait s'échanger des objets, par exemple, on avait toujours des personnes qui arrivaient, qui se présentaient comme étant des enfants, qui disaient bah envoie-moi une photo de toi dénudé, je te balance des pièces d'or, une épée magique ou que sais-je encore. Alors là on parle des cas extrêmes évidemment.
Bien
il y a
sûr,
des prédateurs sexuels effectivement, mais c'est pas la grosse majorité. Je pense que souvent les interactions que les jeunes vont avoir entre eux et qui sont un peu, qui peuvent être un peu désagréables, c'est que souvent ils vont se faire arnaquer en fait. La plupart du temps, les jeunes vont dépenser un peu de Robux pour acheter quelques objets. Ils vont trouver un camarade qui va dire ah vas-y on fait un échange, je t'échange ça contre ça. Et je sais qu'à une époque le système d'échange n'était pas très bien foutu, donc on pouvait donner un objet et on attendait que l'autre nous donne en échange et puis le personnage se barrait avec l'objet.
Oui, ça j'ai envie de dire que ça arrive aussi dans la cour de récréation quand on s'est échangé quelques billes, sauf que normalement le lendemain on revoit la personne dans la cour de récréation puisqu'elle est dans la classe ou la classe d'à côté, là la classe voilà. On va dire est à l'échelle planétaire un peu plus grande et peut en plus rapidement fuir. Esteban Giner, vous parlez justement, vous avez évoqué ce terme de bouillonnement culturel quand vous parlez de Roblox. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous entendez une forme d'inspiration de ce que le jeu dégage comme habitude, comme inconscient peut-être, comme imaginaire, c'est ça ?
En fait, voilà. Au-delà de leur aspect technique et socio-technique, en fait, Roblox, Minecraft, mais aussi GTA et compagnie, en fait, ce sont des imaginaires qui permettent d'être, qui peuvent être réappropriés. Quand je parle de bouillonnement culturel, en fait, je parle aussi surtout de débordement. En fait, ce qui se passe dans la plateforme va au-delà. Par exemple, on a des sons de Roblox qui sont devenus des mèmes sur l'internet. Quand on parlait tantôt, voilà, c'est quand on a Facebook et Meta qui ont du mal à se positionner sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur les usages. On a des serveurs anarchiques, donc c'est-à-dire des mondes virtuels de Minecraft qui sont en train de rejouer les trois royaumes ou les rois maudits. Donc en fait, on a ça, c'est ce bouillonnement culturel parce que quand dans le serveur il y a des joueurs et des joueuses des clans qui jouent les rois maudits, ensuite, enfin c'est des vraiment on va faire de la manipulation pour aller attaquer l'autre et en fait il y a vraiment une géopolitique propre au serveur qui se crée. En parallèle, il y a des utilisateurs et utilisatrices qui sont en dehors, qui ont un pied dans la plateforme et un pied en dehors, qui vont aller remédiatiser les pratiques. Et sur Minecraft, on a aujourd'hui des historiens et des historiennes qui font ce qu'on appelle de l'archéogaming et qui vont explorer et qui vont médiatiser et, par un processus de remédiation, apporter ce qui se passe dans l'univers sur YouTube, etc. Et ils font de la vulgarisation. Et là, on parle de vidéos qui ont des millions de vues. C'est en l'occurrence le serveur 2B2T de Minecraft. C'est vraiment ça. C'est absolument passionnant.
On peut parler même de propagation, pour reprendre le terme de Dominique Boulier et de son récent ouvrage qui explique que les choses deviennent virales lorsqu'elles sont aussi réinterprétées et qu'elles se propagent et qu'elles traversent les frontières d'une plateforme à une autre pour justement former une sorte de culture, du culture et aussi de réflexe. Puisque justement, depuis le début de cette émission, on questionne et on met en miroir le métavers, l'un des métavers de Mark Zuckerberg et ce proto-métavers, appelons-le comme ça, de Roblox. On parle d'adolescents, de préadolescents de 9, 10 ans, 12 ans. Peut-être que lorsqu'ils ont 16, 17, 18, ils sont déjà peut-être habitués, ils ont déjà eu dans leur usage l'usage de comportement d'achat, ils seront peut-être déjà prêts justement à rencontrer ce métavers. C'est ce que nous dit d'une certaine manière le journaliste dans cette chaîne Marketing Manie Dallier.
Il y a deux manières ici de voir les choses. La première, c'est qu'il y a un public qui est trop jeune, donc il y a un pouvoir d'achat qui est limité. Donc Roblox ne peut pas vraiment intégrer son économie virtuelle à l'économie réelle, donc il n'arrivera pas à créer d'effet de réseau. Donc on aura le même problème que Second Life, quand les entreprises ont quitté la plateforme, c'est-à-dire une technologie qui est intéressante, mais qui n'a pas d'usage sérieux. Mais la deuxième manière de voir les choses, c'est que le public actuel de Roblox, ça représente les futures générations. Et comme ce public s'habitue de plus en plus à un métaverse pour enfants, en grandissant, il sera prêt, voire demandeur, d'un métaverse pour adultes. aujourd'hui les investisseurs valorisent Roblox à 45 milliards de dollars. Mais pas juste parce qu'ils pensent que c'est un jeu mignon pour les enfants, qui fait de bonnes commissions sur la monnaie virtuelle. Ils posent un pari que Roblox a une opportunité de réaliser une vision vieille de 30 ans, celle d'un univers virtuel dans lequel on peut réellement vivre sa vie. Non seulement un univers dans lequel on peut jouer à des jeux, mais aussi gagner de l'argent, vivre sa vie sociale, et peut-être même trouver l'amour.
Alors avant de trouver l'amour, on va déjà trouver le chemin, celui qui va nous emmener du côté de Morgan Soulier. Est-ce que vous partagez justement cette idée que Roblox, dans son comportement, dans son habitude, dans son ergonomie, prépare finalement pour l'usage ces utilisateurs qui vont demain mettre un pied dans ce métavers qui sera plus massif, peut-être érigé par Meta ou par d'autres grands acteurs, et que finalement c'est un comportement qui prend forme?
Ouais, absolument. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait que les marques, pour elles, c'est un terrain d'expérimentation et qu'elles commencent dès aujourd'hui à cibler les consommateurs de demain. Il y a un autre, une étude assez significative qui a été faite par Microsoft en tout début d'année, qui dit que 51% de la génération Z et 48% des millennials planifient de travailler dans le métaverse dans les deux ans qui viennent. C'est-à-dire que les jeunes générations, en fait, ils s'attendent à ce que ce ne soit pas uniquement dans leur vie ludique, perso, pour aller faire des jeux vidéo, mais ils s'attendent même à travailler, à ce que leur vie professionnelle se passe dans le métaverse. Et c'est la moitié de la population de cette population-là, des jeunes. Donc c'est très symbolique, c'est très significatif, et ça veut dire que cette génération-là, les plus jeunes, ils sont déjà cognitivement, psychologiquement préparés à ce que leur vie soit hybridée entre le monde physique et le monde virtuel. Et j'ai pas envie de dire monde réel et monde virtuel, parce que dans le monde virtuel, on vit des vraies choses, on vit des vraies émotions, on rencontre des vraies personnes, entre guillemets, même si c'est des personnes qui sont à distance, qu'on n'a jamais vues. On a des vrais échanges, il y a des vraies communautés qui se créent, il y a des vraies relations qui se créent. Donc je veux pas opposer vie réelle et vie virtuelle, mais...
Bien sûr.
Voilà, monde physique et monde virtuel, peut-être que c'est plus juste. Ouais.
On sait qu'il y a effectivement une permanence entre le monde virtuel et le monde physique. Le cyberharcèlement en est une triste expérience de cette permanence-là et cette porosité. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup des digital natives, on peut parler maintenant des avatars natives, peut-être ceux qui sont nés avec cette idée d'avoir un avatar, qui sont nés avec cette idée de pouvoir circuler dans un autre monde, de pouvoir acheter via un avatar, de pouvoir se comporter via un avatar. Donc c'est peut-être effectivement cette génération-là qui est en route. Des avatars comme des Sims, hein. Il y a des Sims natives aussi, et il y a même des chroniqueurs comme Marcus Dupont-Bénard qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François.
Qui s'est intéressé aux Sims, qui a beaucoup joué effectivement lorsqu'il était plus jeune, même si aujourd'hui il n'est pas encore si vieux, et qui va nous raconter cette étonnante histoire des Sims.
Et oui, quand on évoque le métavers, on en parle souvent comme d'une simulation virtuelle de la vie. Mais les jeux vidéo n'ont pas attendu le métavers pour ça. Au collège, donc il n'y a pas si longtemps, comme le disait François, je jouais aux Sims. Et oui, quand on est ado, on rêve d'une vie d'adulte. Les Sims me permettaient d'avoir une maison, des meubles, un job, mais aussi des voisins, des amis, plein d'activités et de relations à gérer. Bref, les Sims, c'était toute une vie quotidienne parallèle sur mon ordinateur. Dans un sketch, la youtubeuse Natou jouait sur cette simulation total pour imaginer des Sims devenant conscients et réalisant qu'ils sont contrôlés par des humains.
Tiens, regarde, je crois que les gens qui nous contrôlent sont dans le soleil. Là. J'ai découvert ça la dernière fois.
C'est dingue! C'est des dieux?
Je sais pas, peut-être.
C'est bizarre, on dirait qu'ils voient pas qu'on les observe.
Ils ont l'air un peu cons, non?
Ouais, un peu. Et ils sont en train de taper sur des claviers. Si ça se trouve, ils nous contrôlent avec ça?
Mais d'où ils viennent finalement ces Sims, Marcus, si on remonte aux origines?
Et oui, je me transforme en père castor du numérique ce soir. L'histoire des Sims remonte d'abord à 1989. Le créateur Will Wright est à l'origine du premier jeu appelé SimCity. On était le maire tout-puissant d'une ville que l'on devait concevoir et gérer. C'était un énorme succès, mais à cette époque, ce n'est qu'à l'échelle de la ville. Will Wright avait déjà l'idée d'en faire une version à l'échelle d'une maison. Mais un événement tragique chamboule ses projets. En 1991, sa maison brûle entièrement après un incendie qui ravage la région. Il perd son foyer et une grande partie de ses effets personnels. Il doit trouver une nouvelle maison, acheter de nouveaux biens. Il réalise l'importance d'un foyer et des objets dans nos vies, mais surtout que les relations humaines restent encore et toujours les plus fortes. Il se dit alors qu'il doit imaginer un jeu où l'on doit certes construire et gérer une maison, mais surtout porter le focus sur les relations. C'est pour ça que les Sims, c'est une simulation de vie en société. L'histoire des Sims, c'est donc l'histoire d'une simulation de la vie, d'abord imaginée matérielle, puis devenue plus humaine.
Et aujourd'hui, la place des Sims dans l'univers des jeux vidéo ?
Alors, je peux dire assez facilement que c'est le jeu de gestion le plus culte. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, les Sims 4 sont devenus gratuit. Je mets des guillemets parce que, attention, les extensions sont payantes. Si vous voulez des animaux, aller à la fac, ouvrir un restaurant ou juste un peu plus de fleurs décoratives, pourquoi pas, il faudra payer pour ajouter chaque activité ou chaque objet de ce type. Alors finalement, là aussi, c'est un petit peu un modèle qui simule assez bien la vie, mais qui finit quand même par coûter très cher pour vivre quand même virtuellement.
Pour vivre virtuellement, effectivement, tout cela a un prix et il est important. Merci beaucoup, Marcus Dupont-Bénard, d'avoir replongé comme ça dans l'univers des Sims, qui, là, j'en suis sûr, parle à beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. Morgane Soulier, peut-être, pour terminer, vous qui vous apprêtez à sortir un ouvrage en septembre prochain concernant justement le métavers, et puis pour reprendre un petit peu cette formule d'Esteban sur la feuille d'impôt, c'est que qu'est-ce que, finalement, quand, par rapport à vos recherches, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire dans ce métavers, dans ces métavers qui vont représenter vraiment un avantage d'usage? Quelles sont les perspectives pour donner finalement une raison, soit de divertissement, soit concrète, de s'y déplacer dans ces espaces-là?
Alors, en fait, il faut savoir qu'on fait déjà beaucoup de choses dans les métaverses, notamment il y a des secteurs d'activité qui sont déjà très impactés, ou en tout cas qui sont déjà très proactives, et qui sont des secteurs d'activité plutôt tournés soit vers le citoyen, soit vers le patient, soit vers l'entreprise, c'est-à-dire les secteurs industriels, le secteur de la santé. Par exemple, dans le secteur de la santé, il y a des choses déjà formidables qui se passent, où les chirurgiens de demain sont déjà formés dans le métaverse, c'est-à-dire avec des... On parle beaucoup d'un concept qui est le jumeau numérique. On va reproduire un corps humain, on va reproduire des villes, on va reproduire des usines, et ça va permettre au secteur à nouveau de la santé et de l'industrie de déjà avoir des activités dans le virtuel pour reproduire des opérations chirurgicales et pour mieux se former, pour reproduire des villes, pour reproduire des comportements, pour former les gens. Donc en fait, le métaverse existe déjà d'un certain côté, et quand tout à l'heure je vous citais l'étude Microsoft qui disait que plus de 50% des jeunes générations s'attendent à travailler dans le métaverse d'ici 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'à terme, surtout dans un usage professionnel et une fois de plus dans l'industrie, dans des secteurs vraiment très en pointe, il va y avoir de plus en plus d'usages qui vont se passer dans le métaverse. Ce qui va permettre, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec cette question de protection de l'environnement, ce qui va permettre de, par exemple, dans l'industrie, quand Renault aujourd'hui forme ses peintres des carrosseries actuelles dans le métaverse, eh ben, on a un gain de productivité énorme, on ne dépense pas de peinture inutilement, et donc finalement, on va avoir comme ça des activités qui existent déjà dans le métaverse.
Même si sur la question.
On est bien loin des jeux vidéo et du truc ludique, là, effectivement.
Effectivement, on est dans le cadre de la formation professionnelle. Rappelons quand même que l'étude que vous avez signifiée sur ce chiffre important est quand même une étude Microsoft, qui a peut-être un biais quand même dans les mondes immersifs. Et quant à au coût énergétique, c'est l'objet d'un grand débat aussi, parce qu'on sait très bien que le métavers peut permettre d'avoir quelques économies, mais aussi est très énergivore en termes d'outils technologiques. Roblox, David Julien, ça va continuer comme ça, et où est-ce qu'ils vont aussi poursuivre leur entreprise de monétisation en fonction de l'audience qui va grandir, qui va évoluer?
Comme on disait tout à l'heure, ils ont mis en place des outils d'IA pour permettre à plus de personnes de créer. Alors c'est une annonce qui est assez intéressante, parce que ça veut dire qu'il y aura plus de éventuellement de gamins qui vont s'essayer à la création et éventuellement leur donner envie. Je pense que ce qu'ils essayent vraiment de faire, c'est motiver le plus possible d'utilisateurs pour pouvoir continuer à créer, parce que s'il n'y a plus de créateurs, s'il n'y a plus de développeurs sur cette plateforme, elle finit par s'effondrer. Donc je pense que c'est leur gros enjeu. Je pense qu'il y aura toujours des enfants qui seront attirés par cette espèce d'île merveilleuse où tout est gratuit ou presque. Mais je pense que il y a une certaine tristesse à constater ça, c'est-à-dire que On parlait des Sims tout à l'heure, il y a une chose qui est super intéressante, c'est les modeurs de Sims. Donc c'est-à-dire c'est des créateurs qui fabriquent du contenu additionnel au jeu. Ils sont rémunérés via Patreon par des fans, donc ils gagnent de l'argent et ils mettent à disposition leurs créations quasiment gratuitement. Et ce qui est triste, c'est que eux, ils sont libres et ils ont un système qui est totalement décentralisé. Roblox centralise tout et pique la moitié de même les trois quarts de leur argent, quoi.
Bah voilà, normalement sur le meilleur des mondes, on essaie toujours de terminer sur une note positive.
Désolé.
Et là, vous allez terminer sur une sorte de circuit fermé. Mais moi je retiens un terme positif qui est celui du bouillonnement effectivement culturel, car même dans un circuit fermé on peut continuer à échanger, à vivre et à s'émanciper à travers cet imaginaire qui dépasse les frontières, même celle de Roblox, mais pas celle du temps, qui malheureusement nous annonce l'heure de vous quitter, de remercier à la préparation de cette émission Juliette Devaux, Héloïse Robert, notre stagiaire, à la réalisation ce soir Lise Com, à la technique Noé Chaban et à la réalisation vidéo Étienne Rouche.